André Ride, l'affaire Redureau, préface. La collection dont voici le premier volume n'est point un recueil de causes célèbres. Les beaux crimes ne sont pas ce qui nous intéresse, mais bien les affaires, non nécessairement criminelles, dont les motifs restent mystérieux, échappent aux règles de la psychologie traditionnelle et déconcertent la justice humaine, qui, lorsqu'elle cherche à appliquer ici sa logique, is fecit cui prodest, risque de se laisser entraîner aux pires erreurs. L'affaire Redureau, par exemple, que nous exposons ici, nous montre un enfant docile et doux, reconnu parfaitement sain de corps et d'esprit, né de parents sains et honnêtes, qui, sans que l'on parvienne à comprendre pourquoi, égorge tout à coup cette personne. Psychologie normale, diront les médecins experts, c'est-à-dire non pathologique. Mais les ressorts de cet acte abominable ne sont ni la cupidité, ni la jalousie, ni la haine, ni l'amour contrarié, ni rien que l'on puisse aisément reconnaître et cataloguer. Certes, aucun geste humain n'est proprement immotivé, aucun acte gratuit, qu'en apparence. Mais nous serons forcés de convenir ici que les connaissances actuelles de la psychologie ne nous permettent pas de tout comprendre, et qu'il est, sur la carte de l'âme humaine, bien des régions inexplorées, des terrae incognitae. Cette collection a pour but d'attirer sur celle-ci les regards, et d'aider à mieux entrevoir ce que l'on commence seulement à soupçonner. Nous donnerons sur les affaires que nous exposerons le plus de renseignements possible, sans crainte de lasser le lecteur. Notre désir n'est pas de l'amuser, mais de l'instruire. Nous nous placerons en face des faits, non en peintre ou en romancier, mais en naturaliste. Un récit est souvent d'autant plus émouvant qu'il est plus sommaire. Mais nous ne nous préoccuperons pas de l'effet. Nous présenterons, en nous effaçant de notre mieux, une documentation autant que possible authentique. J'entends par là non interprété, et des témoignages directs. C'est là une entreprise dont nous n'ignorons point les difficultés. Les documents de ce genre ne sont sans doute point tant rares que particulièrement difficiles à atteindre. Aussi faisons-nous appel à tous ceux que ces questions intéressent et qui seraient à même de nous en communiquer ou signaler d'importants. Chapitre 1. Le 30 septembre 1913, le jeune Marcel Redureau, âgé de 15 ans, et domestique au service des époux Mabie, cultivateur en Charente inférieure, assassinait sauvagement toute la famille Mabie et la servante Marie Dugas, en tout 7 personnes. Rappelons d'abord, en quelques mots, de quoi il s'agit. Le mieux est de citer cette partie de l'acte d'accusation qui relate le crime. Le 1er octobre 1913, vers 7h du matin, la dame Durand, ménagère au bas Briassé, qui avait coutume d'aller chaque jour s'approvisionner de lait chez les époux Mabie, ses voisins, fut très étonnée de trouver leur maison silencieuse et fermée. Sur le seuil de la porte se tenait, tout en larmes, n'ayant pour tout vêtement que sa chemise, le petit Pierre Mabie, âgé de 4 ans. Cet enfant, questionné, répondit que sa mère était à l'intérieur de la maison, où elle saignait abondamment, ainsi que sa grand-mère. Comme la dame Durand savait que Madame Mabie était dans un état de grossesse avancée, elle crut à un accouchement prématuré et se retira discrètement. Le sieur Gault, à qui le propos de l'enfant venait d'être rapporté, s'approcha à son tour de la maison, et, poussant les contrevents de la fenêtre de la cuisine, demeurés entr'ouverts, il aperçut, étendu sur le sol de cette pièce et gisant dans une mare de sang, les corps inanimés de Madame Mabi et de Marie Dugas, sa domestique. Un autre voisin, le sieur Aubron, étant survenu à son tour, se joignit à Gaho, et les deux hommes, pénétrant alors dans la cuisine, constatèrent que les victimes avaient la gorge coupée. Sans prendre le temps de rechercher ce qu'avaient pu devenir les autres habitants de la maison, Aubron se rendit à bicyclette à la gendarmerie de Lauroux-Bottereau. Deux militaires de cette brigade se transportèrent sur le champ, au village du Bas-Briassé, et entrèrent dans la maison Mabi, où un terrifiant spectacle s'offrit à leurs yeux. Ils découvrirent en effet qu'au lieu de deux victimes, il y en avait sept, et que tous les membres de la famille Mabi, à l'exception du petit Pierre, avaient été égorgés, de même que la jeune domestique, Marie Dugas. Tous les corps étaient affreusement mutilés, et il apparaissait avec évidence que le meurtrier, non content de donner la mort, s'était acharné sur ses victimes avec une telle sauvagerie qu'il devenait impossible de faire le compte des coups portés, tant les blessures étaient rapprochées et multiples. Les gendarmes, surpris de ne rencontrer nulle part dans la maison le domestique, Marcel Redureau, aussi au service des époux Mabi, se mirent à sa recherche et le découvrirent dans un pavillon inhabité, près du domicile de ses parents, à 500 mètres environ de la maison du crime. Comme il portait au visage et sur sa chemise des traces de sang, il fut mis en état d'arrestation, et après quelques hésitations, il avoua qu'il était l'unique auteur de tous ces meurtres. Pendant toute la durée de l'information, Marcel Redureau persista dans les aveux qu'il avait faits aux gendarmes et précisa dans ses divers interrogatoires, sans émotion apparente, les circonstances dans lesquelles il avait accompli ses crimes. Le 30 septembre, vers 10 heures du soir, Mabi et lui travaillaient ensemble au pressoir. Le patron tenait la barre qui actionne la vis du pressoir, tandis que Redureau, debout sur la plateforme, l'aidait dans cette besogne et secondait ses efforts. Comme le domestique montrait peu d'ardeur au travail, Mabi lui fit l'observation qu'il était un fainéant et que depuis quelques jours il n'était pas content de lui. Sur cette observation, Redureau, irrité, descendit du pressoir et, s'armant d'un pilon en bois, sorte de massue longue de 50 cm qui se trouvait à portée de sa main, il en asséna plusieurs coups sur la tête de son maître, qui, lâchant la barre, s'affaissa en poussant des gémissements. Voyant qu'il vivait encore, Redureau se saisit alors d'un énorme couperet désigné dans la campagne sous le nom de « serpe à raisin », dont on ne se sert pas dans les vignes, mais qui est destiné à sectionner la masse des raisins entassés dans le pressoir. Cette arme, qu'il suffit de voir pour comprendre les terribles blessures qu'elle peut faire, se compose d'une lame très aiguisée, arrondie à son extrémité, pesant environ 2,5 kg, mesurant 65 cm de longueur et 13 de largeur, supportée par un manche de bois long d'un mètre environ. À l'aide de cet instrument, Redureau ouvrit la gorge de son maître, qui râlait, et ne tarda pas à rendre le dernier soupir. Ce premier crime perpétré, l'inculpé affirme qu'il eut d'abord l'intention de prendre la fuite, mais que, s'étant dirigé vers la cuisine pour y reporter la lanterne du pressoir, il avait été interpellé par Madame Mabi, occupée à des travaux de couture avec Marie Dugas, et qui lui avait demandé ce que devenait son mari. Craignant qu'elle n'allât dans le pressoir, où elle aurait découvert le cadavre de ce dernier, Redureau forma le dessein de supprimer tous les témoins du crime, de manière à s'assurer ainsi l'impunité. Sans répondre à la dame Mabi, mettant à exécution son idée, l'inculpé retourna vers le pressoir. Il y prit le couperet ensanglanté dont il venait de faire usage, revint à la cuisine et assassina les deux femmes. La grand-mère, soit qu'elle ne dormît pas encore ou qu'elle eût été réveillée par le drame qui s'accomplissait à quelques pas d'elle, ne pouvait manquer de se porter au secours de sa bru. Il fallait qu'elle disparût à son tour. Aussi, sans perdre de temps, s'éclairant de sa lanterne, son couperet à la main, Reduro se dresse soudain devant elle et la tue. Restaient trois enfants, dont les cris d'épouvante étaient susceptibles d'attirer l'attention des voisins. Ils furent tous immolés. L'enfant de 2 ans, trop jeune, semblait-il, pour pouvoir inquiéter le criminel, ne fut pas plus épargné que les autres, et Reduro le frappa avec tant de férocité que, de son propre aveu, c'est sur le berceau de cette dernière victime qu'il brisa le manche du couperet. Le petit Pierre Mabi, qui couchait dans la cuisine, et qui, peut-être terrorisé, peut-être endormi, n'avait pas crié, dut à cette circonstance de n'être pas compris dans cette tuerie monstrueuse. Reduro prit soin de reporter dans le pressoir, où il fut retrouvé le lendemain, l'instrument homicide dont il s'était servi. Et, après avoir déposé sur la margelle du puits de la cour la lanterne couverte de taches de sang, il regagna sa chambre, où il passa le reste de la nuit. Le matin, il se dirigea vers le domicile de ses parents. Il affirme avoir eu des remords et la pensée de se noyer dans une pièce d'eau voisine. Mais, en tout cas, cette velléité fut passagère, et il est permis de se demander s'il n'avait pas simplement imaginé de mouiller ses chaussures et l'extrémité inférieure de son pantalon pour donner quelque vraisemblance à son simulacre de suicide. L'inculpé appartient à une famille honorable et nombreuse. Il n'était au service des époux Mabi que depuis quelques mois. Intelligent, pourvu du certificat d'études primaires, il passait, aux yeux de certains témoins, pour être peu communicatif et avoir un caractère sournois et rancunier. S'il faut en croire un sieur Chiron, qui, l'ayant rencontré vers le milieu de juillet, le félicitait d'être entré au service des époux Mabi, qui étaient de braves gens, Marcel Reduro avait tenu ce grave propos que les événements n'ont que trop justifié. « Moi, je ne les aime pas. Ils seraient bons à tuer. Si c'était moi, je les tuerais tous. Je n'en laisserais pas un. » Au sujet de cet unique témoignage à charge du sieur Chiron, quelques remarques. Les propos rapportés par lui indiqueraient, sinon précisément une préméditation du crime, du moins certaines dispositions à le commettre, qui diminueraient grandement son étrangeté. Fouillant attentivement les pièces du procès, qu'un lecteur de la NRF a bien voulu me procurer, et je lui en exprime ici ma très vive reconnaissance, il m'apparaît que ces propos sont de pure invention. Que monsieur le président du tribunal ait néanmoins cru devoir en faire état, passe encore. Mais, désireux d'apprécier dans quelle mesure il convenait d'ajouter foi au témoignage de monsieur Chiron qui les rapporte, il est proprement monstrueux que le ministère public n'ait fait assigner devant les jurés que les témoins de moralité favorables à monsieur Chiron, négligeant les autres, ainsi du reste que c'était son droit strict. Il est à remarquer que si quelques personnes favorables à Chiron, à qui la gendarmerie s'est adressée, sont, premièrement, le charcutier, à qui M. Chiron vendait ses porcs, deuxièmement, le boucher, à qui M. Chiron vendait ses animaux de boucher, troisièmement, un autre commerçant, enfin, avec qui M. Chiron faisait des affaires depuis longtemps. Les autres témoins, et dont le témoignage était de nature à modifier grandement l'opinion des jurés, aurait montré M. Chiron comme un honnête homme peut-être, mais vantard et imaginatif. « M. Chiron, dit l'un d'eux, possède une mentalité spéciale qui le porte à raconter des choses imaginaires. Il aime à s'attribuer un rôle dans les événements importants du pays. » Ainsi, pour certaines lois de 1898, qui fut époque dans cette région, Chiron n'alla-t-il pas jusqu'à soutenir que c'était grâce à lui qu'elle avait été votée? Le document qui emporta le vote avait été fourni par lui à l'enquête, affirmait-il. Au sujet de ce crime du 30 septembre 1913, qui lui aussi devait faire date dans l'histoire locale de Landreau, Chiron ne songe pas tout d'abord à cette phrase qu'il ne rapporta ou n'inventa que 2 jours plus tard. Il émet tout d'abord l'avis que le crime ne put être commis que par un étranger. Ajoutons encore ceci. Je disais tout à l'heure qu'aucun des témoins défavorables à Chiron n'avait été convoqué. Je me trompais. Monsieur Pierre Bertin, qui témoigna pour dire, au sujet de la mentalité spéciale de Chiron, ce que j'ai rapporté plus haut, n'avait été cité que par erreur. Voici comment. 2 Pierre Bertin figuraient à l'instruction. L'un était un témoin favorable, et c'est lui seulement que le procureur prétendait faire entendre. Quand parut inopinément l'autre Pierre Bertin, témoin défavorable, M. Chiron manifesta la contrariété la plus vive et la hâte de s'esquiver. Que l'on m'entende, que l'on me comprenne bien. Je ne prétends nullement atténuer l'atrocité du crime de Redureau, mais lorsqu'une affaire est aussi grave, l'on est en droit d'espérer que l'accusation elle-même tiendra à cœur de présenter au regard de la justice toutes les circonstances, même celles qui pourraient être favorables à l'accusé. Surtout lorsque celui-ci est un pauvre enfant, n'ayant d'autre secours que l'assistance d'un avocat d'office. Si j'ai longuement insisté sur ce point, c'est aussi parce que l'intérêt psychologique du cas Redureau serait grandement affaibli s'il était prouvé que l'idée du crime habitait depuis longtemps l'esprit du jeune assassin, ainsi que ses propos apocryphes le donneraient à entendre. Il est à remarquer, au surplus, que c'est le seul point sur lequel proteste avec véhémence Redureau, qui d'autre part a fait tout aussitôt des aveux complets, reconnaissant l'exactitude de tout ce dont on l'accuse. Mais ses propos, il ne les a jamais tenus. Avant de commettre le crime, il n'avait jamais eu l'idée de le commettre. 2. Premièrement, M. Henri Barbie écrit dans le journal samedi 4 octobre 1913. Nantes, 3 octobre, par dépêche de notre envoyé spécial. Je vous indiquais hier, en terminant ma dépêche, que l'on se refusait ici à admettre qu'une simple observation de son patron ait suffi, comme le déclarait Marcel Redureau, à faire de lui l'assassin sauvagement cruel de 7 personnes. Il n'y a, en effet, chez ce gamin de 15 ans, aucune des tares héréditaires, aucun des stigmates de dégénérescence qui caractérise le criminel né. Marcel Redureau est le 4e de 10 enfants, tous vigoureux, bien portants et honnêtes comme leurs parents. Ceci, petits propriétaires terriens, à la fois cultivateurs et vignerons, vivent du produit de leur récolte. Leur demeure se trouve à 300 mètres à peine de la ferme Mabie. Ils sont estimés dans le pays et leurs enfants n'ont reçu d'eux que de bons conseils et de bons exemples. Leur fils, Marcel Joseph René, dont l'épouvantable forfait vient de les plonger dans le désespoir, est né le 24 juin 1896. Il a donc exactement 15 ans et 3 mois. Son enfance n'eut pas d'histoire et fut celle du petit gars de la campagne qui, à peine arrivés à l'âge de raison, vont gagner leur pain au dehors pour alléger les charges familiales. Le maire de Landreau, M. Bois de Heuneck, qui le connaissait beaucoup, ne peut comprendre comment il a commis son crime. Marcel, déclare-t-il, dont la famille vivait en excellents termes avec les Mabie, n'avait jamais donné lieu jusqu'ici à aucune observation. Il était peut-être un peu nerveux, mais c'est tout. On le dit aujourd'hui sournois et solitaire. J'avoue que jamais personne ne s'en était aperçu auparavant. Il ne buvait pas. Bref, rien ne pouvait laisser supposer qu'il fût capable de commettre un tel forfait. Son ancien maître d'école, M. Béranger, tient le même langage. « D'intelligence moyenne, dit-il, Redureau s'est toujours bien conduit. C'était un bon élève qui me donnait toute satisfaction. Quand il recevait une réprimande, il ne se révoltait jamais. C'était un enfant plutôt docile. À 11 ans, Marcel obtenait son certificat d'études et quittait l'école. Ses parents lui cherchèrent une place. Un peu frêle pour entrer chez des étrangers, ce fut chez son oncle, M. Louis Bouillet, cultivateur à la Bonnière, à 2 kilomètres de Landreau, qu'il débuta comme gardien de bestiaux. Bien sage, ni paresseux ni boudeur, son oncle le garda 3 ans à son service et n'eut qu'à se féliciter de lui. Après avoir travaillé 10 mois dans sa famille, Marcel Redureau entrait en juin dernier comme domestique à la ferme Mabi, où il remplaçait son frère aîné qui partait au régiment. Ses gages annuels étaient de 360 francs. « Il était si peureux, déclare son père, qu'il n'osait pas sortir le soir. » Que s'est-il passé durant ces 3 derniers mois pour que ce timide, ce doux, ce craintif, se métamorphose en une brute ivre de sang? Dès la découverte du crime, on pensa que le vol en était le mobile. Dimanche dernier, M. Mabi avait encaissé 3 000 francs, produit de la vente d'une partie de ses vendanges. La somme, qui était cependant à portée du meurtrier, a été retrouvée intacte. Marcel a donc tué uniquement par vengeance. Maintenant que la vision d'horreur du crime commence à s'estomper, les gens parlent. Et les langues se délient à Landreau, comme au village du Bas-Briassé, et de ces « on dit » se dégage une version inattendue. Marcel Redureau n'aurait pas été insensible au charme naissant de Marie Dugas, la jeune bonne des fermiers. Comme lui, depuis 3 mois, Marie était au service des époux Mabi. Or, on dit au hameau que dans la journée du crime, Marcel Redureau aurait tenté d'abuser de la jeune domestique, qui avait 15 ans comme lui, et son geste lui aurait attiré une verte semonce de Madame Mabi. Le fermier aurait joint ses admonestations sévères et justifiées à celles de sa femme. Mais est-ce bien exact? Quoi qu'il en soit, la parole est maintenant à l'enquête judiciaire. Monsieur Mallet, juge d'instruction, chargé d'instruire le crime, a écrit au bâtonnier de l'ordre de Nantes pour lui demander de désigner un avocat pour assister Marcel Redureau. Maître Abel Durand a été désigné par le bâtonnier. Henri Barbie, Le Journal, samedi 4 octobre 1913. Deuxièmement, le correspondant du Temps écrit à son journal. Les obsèques des victimes du crime de Landreau ont été célébrées hier à 3 heures, au milieu d'une assistance nombreuse. Le juge de paix a apposé des scellés dans la maison funèbre. Le maire de Landreau a déclaré qu'il connaissait beaucoup Redureau et que rien n'indiquait chez ce jeune homme une telle prédisposition. Il n'était pas sournois, ni solitaire, comme on se plaît maintenant à le prétendre. Il avait même des amis. Il ne buvait pas. Depuis quelque temps, cependant, Redureau s'était attiré quelques observations de la part de son patron. Peut-être ces observations l'ont-elles irrité au point de lui faire perdre la tête. D'autre part, l'ancien maître d'école de Redureau déclare que celui-ci, quoique d'intelligence moyenne, était un bon élève qui lui donnait toute satisfaction. Il a passé avec succès son certificat d'études. L'instituteur, lui aussi, a été très surpris par la nouvelle du crime. Les médecins légistes déclarent avoir rarement rencontré un tel acharnement. Il leur est impossible de se rendre compte, sur certains cadavres, de l'ordre des coups et de leur nombre. Redureau a dû frapper 50 ou 60 fois les 7 personnes qu'il a tuées. L'arme dont il s'est servi est une serpe à raisin mesurant 50 cm. Le manche est plus long que la lame. Cette lame est recourbée comme un sabre turc et ressemble à un yatagan. L'assassin a passé une nuit très calme à la prison de Nantes. N'ayant pas encore de défenseur, il ne sera probablement pas interrogé avant lundi. Le Temps, le 4 octobre 1913. Troisièmement, Le Temps, encore, publie l'information suivante. Notre correspondant de Nantes nous écrit « Le bâtonnier de l'Ordre des avocats a désigné Maître Abel Durand comme défenseur de Marcel Redureau. Redureau tombe sous l'application des articles 66 et 67 du Code pénal ainsi conçu. Article 66. Lorsqu'un accusé aura moins de 16 ans, et s'il est décidé qu'il a agi sans discernement, il sera acquitté, mais il sera, suivant les circonstances, remis à ses parents ou conduit dans une maison de correction, pour y être élevé et détenu pendant un laps de temps qui ne dépassera pas sa 20e année. Article 67. Si, au contraire, l'accusé a agi avec discernement, il faut distinguer suivant la peine qui le frappe. Si c'est la peine de mort ou celle des travaux forcés à perpétuité, il est condamné à la peine de 10 à 20 ans d'emprisonnement dans une maison de correction. S'il a encouru la peine des travaux forcés à temps ou la réclusion, il est condamné à être enfermé dans une maison de correction pour un temps égal au moins au tiers et au plus à la moitié du temps pour lequel il aurait pu être condamné. Ainsi, la peine la plus forte que le criminel de l'endroit peut encourir est de 20 ans de prison. Les mobiles envisagés depuis le crime disparaissent un à un. On avait pensé au vol parce que le patron de Redureau avait touché dimanche 2000 francs, produit de la vente de son vin. L'argent a été retrouvé intact. Cette hypothèse est donc écartée. L'idée d'un crime passionnel ne semble pas non plus devoir être retenue. Reste la vengeance, le ressentiment de Redureau contre son patron qui l'aurait rudoyé. C'est, semble-t-il, de ce côté que le juge d'instruction va diriger ses investigations. En attendant, le prisonnier se montre toujours très calme, inconscient en apparence du crime horrible dont il est l'auteur. Il mange et dort bien, et les remords ne paraissent pas l'obséder. Vendredi après-midi, il a reçu la visite de son avocat, avec qui il a eu un assez long entretien. Le Temps, 5 octobre 1913. 3. Rapport des médecins légistes. Je cède à présent la parole aux médecins légistes, messieurs A. Culler et M. Desclos. Leur rapport est si important que l'on me saura gré, je l'espère, de le citer presque tout au long. Ce qui caractérise cet horrible drame, c'est que sa genèse n'emprunte rien aux conditions étiologiques habituelles de la criminalité juvénile. Ce n'est le produit ni de l'hérédité, ni de l'influence du milieu. Son auteur n'a pas d'antécédent héréditaire de mauvais aloi. Il a été élevé dans un milieu irréprochable et n'a reçu que de bons principes et de bons exemples. Ce n'est pas davantage la conséquence d'une de ces tares régressives si fréquentes chez les jeunes criminels. La malfaisance instinctive, l'anesthésie psychique, l'absence de sens moral. Rien, en effet, dans les anamnestiques du jeune assassin n'autorise cette hypothèse. Il est remarquable qu'aucune des personnes au milieu ou sous les yeux desquelles il a été élevé n'est venue le présenter à l'audience comme un enfant taré au point de vue mental. Tous ceux qui le connaissent ou l'ont pratiqué se sont accordés à dire qu'il est très intelligent, bon travailleur et qu'on ne lui connaît aucun vice. Un point cependant, qui a certes son importance, doit être signalé. Il y a presque unanimité parmi les témoins pour lui reconnaître un caractère renfermé, un peu difficile et sournois. Ce n'est pas davantage un dégénéré au sens somatique du mot, en dépit des descriptions fantaisistes qu'on a pu lire dans certains des journaux qui ont rendu compte du procès. « Ce gamin, dit l'un d'eux, est presque un enfant dont le développement physique ne serait pas complet. Si la balustrade qui sépare le banc des accusés du prétoire n'était à claire-voie, on ne le verrait pas quand il se tient assis, et debout, il est haut comme une botte. » Or, la taille de Redureau est de 1,584 m, dépassant de 5 cm la moyenne de Quételé pour les garçons de 16 ans. Le même journal continue ainsi. La tête est grosse, avec des cheveux blonds dont les mèches tombent sur un front bas et bombé. Le profil avec un nez droit sur une bouche largement fendue et fuyant. Pas un de ces détails n'est exact et ne répond à la réalité. Le front n'est ni bas, ni particulièrement bombé, encore moins fuyant. La tête et la face, dans leur ensemble, sont d'une conformation très régulière. On n'y découvre pas le moindre stigmate de Morel. Même erreur à propos des oreilles que l'article en question déclare « énormes ». Elles ont, d'après la fiche anthropométrique, une hauteur de 6,8 cm. Elles sont absolument symétriques, bien proportionnées, bien ourlées, ne se détachant pas du crâne. La seule particularité qu'elles présentent est la présence du tubercule de Darwin, qui sans doute est une exception, mais non pas une anomalie. Un autre journal se rapproche davantage de la vérité quand il fait de l'assassin le portrait suivant. Blond, très blond même, avec des yeux bleus, il est plutôt gentil garçon. Il est loin d'avoir la face de brute qu'on s'accorde d'ordinaire à attribuer aux assassins. Ce garçon est un renfermé, un sournois. C'est tout ce qu'on a pu trouver pour expliquer son crime. Et encore, avant ce jour-là, personne peut-être ne se fût avisé d'incriminer son caractère. Ses parents ne l'ont jamais connu sous cet aspect. L'instituteur qui lui a fait la classe pendant 6 ans, pas davantage. L'impulsivité propre aux années climatériques de l'adolescence, le formidable instrument de mort qu'on appelle dans ce pays un couteau à raisin, qui tient de la faux et de la hache, et s'est trouvé sous sa main, telles sont sans doute les circonstances déterminantes de cette épouvantable tuerie. Le crime accompli par le jeune Reduro est un des plus effroyables qui se puisse imaginer. Le 30 septembre 1913, vers 10h30 du soir, alors qu'il était occupé au pressoir avec son patron, ce dernier lui ayant fait des reproches sur son travail, il l'assomma avec un pilon, puis l'égorgea avec le couteau à raisin. Après quoi, il se rendit à la maison d'habitation où il tua successivement de la même manière la dame Mabi, sa servante, sa belle-mère et 3 de ses enfants, s'acharnant sur ses victimes avec une violence inouïe. Nous n'insisterons pas davantage ici sur la description détaillée du drame dont nous nous réservons d'étudier ultérieurement toutes les circonstances. Nous avons recueilli auprès des parents mêmes de l'inculpé les renseignements suivants sur ses antécédents héréditaires et personnels. Il n'y a eu chez les ascendants directs, ni parmi leurs ancêtres, ni chez les collatéraux des 2 branches, aucune affection vésanique ou convulsive. On n'y trouve pas non plus d'originaux, d'individus bizarres, ni d'alcooliques. Le père et la mère sont bien portants, de constitution robuste. Ils n'ont fait aucune maladie grave ayant intéressé leur constitution physique ou leur fonction cérébrale. Ils ont eu 11 enfants, dont 10 sont vivants, 6 garçons, 4 filles. L'aînée, une fille, a 21 ans et la plus jeune, 20 mois. Le troisième, un garçon, est mort 4 jours après sa naissance. L'inculpé est le 5e dans l'ordre des naissances. Les grossesses et les accouchements de la mère ont été normaux. Aucun des enfants n'a eu de maladie grave, soit générale, soit intéressant le système nerveux ou les fonctions cérébrales. Ils sont tous robustes et n'ont jamais donné d'inquiétude relativement à leur santé. À part quelques petites indispositions de l'enfance, Marcel, l'inculpé, n'a fait d'autres maladies qu'une crise rhumatismale en septembre 1912. Alors qu'il était en service chez M. B, il fut pris de fièvres et de douleurs dans les articulations, principalement les genoux, qui pourtant n'enflèrent pas. Il ne fut que 8 jours malade et se remit au travail 15 jours après le début de la maladie. Il est intelligent et a reçu le certificat d'études primaires. Personne n'a jamais eu à se plaindre de lui sous aucun rapport, pas plus ses patrons que ses camarades ou les gens du pays. il n'a jamais manifesté de mauvais instincts. Il n'est pas batailleur, ne s'est jamais montré cruel envers les animaux. Les parents reconnaissent qu'il est un peu nerveux, vif, espiègle, mais sans méchanceté. Il est peureux dans le sens général du mot. Sur ce point, ainsi que sur le caractère, ils ne peuvent préciser davantage. Marcel n'avait aucun goût pour la dissipation, ne buvait pas, et passait ses jours de congé à jouer avec ses camarades. Ils n'ont point constaté qu'il eût un goût immodéré pour la lecture. Il avait passé chez eux le dimanche précédent, et ils n'avaient rien remarqué d'insolite en lui. Il ne s'est jamais plaint devant eux de son patron Mabi. Le crime les étonne profondément, et ils ne trouvent rien pour l'expliquer. Si nous rapprochons ces renseignements de ceux que nous trouvons dans le dossier de la procédure, et qui émanent soit des autorités, soit des témoins interrogés à l'instruction, nous constatons qu'ils n'en diffèrent sur aucun point capital. Le juge de paix de Lauroux-Bottereau, dans le bulletin de renseignement qu'il a délivré sur le prévenu, déclare qu'on ne lui connaît aucun défaut essentiel, mais qu'il est d'un caractère un peu nerveux, sournois parfois. L'instituteur qu'il a élevé a déposé « Marcel Redureau était d'une intelligence un peu au-dessus de la moyenne, bon élève, rarement puni. Pendant qu'il fréquentait l'école, il n'a donné lieu à aucune plainte. Il avait assez bon caractère et ne paraissait pas être sournois. Il avait une bonne conduite. Il n'a donné lieu à aucune remarque défavorable au point de vue de la probité et de la moralité. » Aucune des dépositions des témoins ne s'écarte sensiblement de celle de l'instituteur, sauf sur un point, le caractère. Le témoin B, son oncle, qu'il a eu chez lui de 11 à 14 ans, n'a pas eu à se plaindre de lui, mais il était peu causeur et avait un caractère sournois. Le témoin C, voisin du précédent, qui a très bien connu Marcel, a déposé qu'il avait une bonne conduite, qu'il était bon travailleur, mais qu'il avait le caractère très renfermé, et que souvent, quand on lui adressait la parole, il ne répondait pas. Le témoin qu'il a eu à son service le déclare très intelligent, mais lui trouve un caractère sournois très indépendant. Tous les autres témoins insistent sur cette particularité du caractère de l'inculpé, mais aucun ne fournit sur ses tendances et sa moralité de renseignements défavorables. Madame Brr, femme du témoin précédent, n'a fait aucune observation défavorable sur son caractère, sur son travail ou sur sa conduite, et ne s'est point aperçue qu'il fût violent. Il y a une déposition qui, si elle est véridique, fait nettement ressortir les défectuosités du caractère de Marcel Redureau. C'est celle du témoin CH. Ayant rencontré l'inculpé vers la mi-juillet et ayant appris qu'il était placé chez des Mabis, il l'en félicita, ces gens étant de bon monde. Mais l'inculpé aurait répondu « Moi, je ne les aime pas. Ils seraient bons à tuer. Si c'était moi, je les tuerais tous. Je n'en laisserais pas un. » Le témoin ajoute que Redureau parlait d'un ton très dur et paraissait sous l'influence d'une contrariété. Ce propos, tenu sous l'influence de la colère, trahirait incontestablement une humeur violente et vindicative. Toutefois, nous ne devons pas oublier que l'inculpé nie énergiquement l'avoir tenu. En somme, la seule remarque qui ait été faite sur la mentalité de Redureau concerne son caractère. Encore n'y a-t-il pas sur ce point unanimité. L'instituteur, bien placé cependant pour apprécier le caractère d'un enfant qu'il a pu suivre pendant 5 ou 6 années, n'a pas remarqué qu'il fût sournois. De même, son père s'est refusé à reconnaître qu'il fût sournois et rancunier. Une remarque faite par Madame Br, l'un des témoins précédemment cités, est qu'il lisait beaucoup, sans qu'elle pût dire quelle lecture il faisait. Le témoin J, dans sa déposition, « J'ai appris seulement aujourd'hui qu'il se livrait à de mauvaises lectures », n'était sans doute que l'écho du témoin précédent. Nous avons pu nous rendre compte, d'ailleurs, que cette particularité n'était pas de nature à retenir notre attention, et que les lectures de Reluro se bornaient à un journal régional et à l'almanach. Jamais, notamment, il n'a lu de ces romans populaires dont la matière favorite se compose d'histoires de crimes et d'assassinats. Reluro avait 15 ans et 4 mois, le jour où il a commis les meurtres qui lui sont reprochés. C'est un garçon d'une taille de 1m584, d'aspect bien portant, d'apparence normale, sans signe patent de dégénérescence. Il n'y a aucune déformation du crâne ni de la voûte palatine. Les oreilles sont bien conformées, le cœur et les poumons sont sains, la rate et le foie de dimension normale, le système musculaire est assez bien développé. La motilité en général ne présente aucun trouble. La sensibilité générale, sous ses différents modes, toucher, douleur, chaud, froid, est intacte. Les organes des sens ne sont le siège d'aucune anomalie. Notamment, le sens des couleurs n'est pas altéré. Les réflexes examinés selon la méthode clinique habituelle répondent à l'état physiologique. Son attitude devant nous est celle d'un enfant intimidé. On a de la peine à lui faire lever les yeux. Il parle d'abord à voix basse et presque uniquement par monosyllabes. Mais, en insistant, on obtient des réponses plus explicites. Le personnel de la maison d'arrêt, pendant sa longue détention, n'a rien remarqué chez lui d'insolite au point de vue mental, sinon qu'il prend facilement une attitude renfrognée et boudeuse lorsqu'on lui fait quelque observation. Il participe à la vie commune et se plie à la règle comme les autres détenus. Sa sensibilité morale n'est pas troublée. Il verse des larmes quand on évoque le souvenir de sa mère ou de l'un de ses frères qui vient de partir en Algérie pour faire son service militaire. Au sujet des actes qu'il a commis, il exprime des regrets qui paraissent sincères. Nous verrons plus loin qu'il n'ignore pas le remords. Il répond pertinemment à toutes les questions que nous lui posons. Il est bien orienté dans le temps et dans l'espace. Il fait preuve, dans ses paroles, d'intelligence et de bonnes connaissances primaires relativement à l'histoire, la géographie, la grammaire et le calcul. Toutes les réponses qu'il nous fait au sujet de sa vie passée, de ses patrons, de son travail, de ses salaires, sont exactes ou plausibles. Il n'a jamais été porté aux excès de boisson et ne s'est jamais mis en ribote, de sorte qu'on ne peut dire comment il serait s'il s'enivrait par hasard. Il fréquentait les garçons de son âge et se rencontrait avec eux le dimanche pour jouer aux cartes. Les gains ou les pertes ne dépassaient pas 10 sous. Il n'allait pas au cabaret. Il n'a jamais fréquenté les filles et n'a jamais eu de rapport sexuel. Il était camarade avec la jeune domestique de ses patrons, mais il n'éprouvait pour elle aucun sentiment particulier et ne l'a jamais courtisée. Il n'a jamais ressenti de préoccupations émotives et n'a jamais eu ni obsession ni idée fixe. Quelles que soient nos questions dans cet ordre d'idées, nous n'obtenons que des réponses absolument négatives. Cependant, particularité déjà signalée par son père, il reconnaît qu'il est peureux. Le soir, il redoute l'obscurité et ne sait s'il serait capable d'aller la nuit faire une commission loin de son domicile. Si on lui en eût donné l'ordre, il n'aurait pas voulu y aller. C'est une impression vague, indéfinie, qui n'a rien d'électif ni de systématisé, ni qui réponde à ce qu'on désigne en psychiatrie sous le nom de phobie. Il ne croit pas aux revenants, il n'aurait pas peur de passer près d'un cimetière, il ne craint pas les sorciers et n'en connaît pas dans son pays. En un mot, il est peureux purement et simplement, d'une façon peut-être excessive pour un garçon de son âge, mais si c'est là un indice de nervosité, ce n'est pas un signe relevant de la pathologie. Interrogé sur ses sentiments vis-à-vis de son patron et de sa famille, il déclare formellement n'avoir jamais eu à se plaindre d'eux, ni nourri vis-à-vis d'eux des sentiments de rancune ni de haine. Il s'entendait bien avec la patronne et la jeune servante. Depuis les vendanges seulement, Le patron parlait fort quelquefois et lui disait des injures. Il nie formellement le propos que lui attribue le témoin CH, duquel il résulterait qu'il éprouvait depuis longtemps pour eux du ressentiment et nourrissait des idées de vengeance à leur égard. Nous insistons beaucoup pour savoir si, dans la journée du crime, il n'avait pas fait quelque excès inusité de vin pour soutenir ses forces. Il résulte de ses réponses, provoquées à diverses reprises et demeurées invariables, qu'il n'a pris du vin qu'aux heures réglementaires des repas, et en quantité normale, environ 2 verres chaque fois. C'était du vin rouge. Avant de souper seulement, il a bu avec son patron 2 coups de vin blanc bouché. Ce renseignement est conforme aux données fournies par l'instruction. On a en effet trouvé dans le cellier une bouteille de vin blanc à laquelle manquait 1/3 de son contenu. Il affirme donc, et nous croyons que la chose peut être tenue pour exacte, qu'il n'était pas sous l'influence d'une excitation alcoolique au moment du drame. En ce qui concerne le crime, ses explications sont invariables. Son patron Mabi et lui faisaient fonctionner le pressoir. Mabi était à la barre et Reduro sur la plateforme pour réparer la vis. Comme il n'arrivait pas assez vite à exécuter le travail commandé, le patron lui fit une scène, lui criant qu'il était un maladroit, un feignant, que depuis 8 jours il ne travaillait pas bien. C'est alors qu'il descendit du pressoir et que, s'armant du pilon qui était à sa portée, il porta à Mabi, par derrière, 2 coups sur la tête. Mabi lâcha la barre et tomba sur le sol. Comme il poussait des gémissements, Reduro, après l'avoir un instant regardé, saisit le couteau à raisin. Longue et large lame très aiguisée, longue de 65 cm et large de 13, pesant environ 2,5 kg. Et lui coupa la gorge. Ensuite, il prit la lanterne et se dirigea vers la maison, où il croyait trouver tout le monde couché. Mais en arrivant dans la cuisine, il vit Madame Mabi et la domestique qui étaient à travailler auprès de la table. Il eut d'abord l'intention de fuir, mais la patronne lui ayant demandé où était son mari, il sortit sans répondre, alla s'emparer du couteau à raisin resté dans le cellier, rentra et en frappa la domestique d'abord. Ensuite, Madame Mabi. Elle lui tournait le dos. Elles n'ont pas eu le temps de parler. Elles n'ont crié qu'au moment où elles ont été frappées. « Je, dit-il, frappé la domestique au cou. Elle est tombée tout de suite. Et j'ai frappé la patronne également au cou. Et elle est tombée. Lorsqu'elle a été à terre, je lui ai donné un coup de couteau dans le ventre. » Dans les 2 chambres voisines, la grand-mère couchée dans l'une et 3 des enfants couchés dans l'autre, réveillés par le bruit, se mirent à crier. Alors il prit sa lanterne, alla d'abord dans celle de la grand-mère qu'il frappa à la gorge. Elle n'a rien dit, elle n'a pas eu le temps. Il passa ensuite dans l'autre chambre, j'ai porté un coup à la gorge de l'une des fillettes qui criait, et sa sœur, qui était couchée auprès d'elle, s'étant réveillée à ce moment, je lui ai également porté un coup de couteau. L'enfant qui était couché dans son berceau, ayant été réveillé par le bruit, se mit à crier aussi. Alors je l'ai tué. Le manche de l'outil au dernier coup se cassa. Reduro en reporta les morceaux dans le cellier, près du pressoir, où ils furent retrouvés. Un petit garçon, qui était couché dans la cuisine, échappa seul à la boucherie. L'explication que l'inculpé donne de cet horrible drame a toujours été la même. Pour le patron, il a cédé à une violente colère. Une fois le meurtre accompli, quand il revint à la maison, il était très ému, ne sachant trop ce qu'il faisait. Quand la patronne lui demanda où était son mari, il perdit la tête. L'idée lui vint qu'elle allait aller dans le cellier et découvrir son crime. Alors il voulut en faire disparaître tous les témoins. Voici ses réponses textuelles. J'avais peur que la patronne vienne voir son mari dans le cellier. J'ai frappé la domestique parce qu'elle était avec la patronne. J'ai frappé les autres parce qu'ils criaient. La véracité de ces réponses semble corroborée par la suivante, qui en atteste la sincérité. Je n'ai pas touché au petit Pierre, parce qu'il n'a rien dit et qu'il dormait. Au sujet de la multiplicité et de la violence des coups portés aux victimes, crâne fracassé, faces et coups hachés, colonne vertébrale sectionnée, il ne peut fournir aucune explication. Il ne peut dire non plus pourquoi il a ouvert le ventre de la femme Mabi qui était près d'accoucher. Il proteste seulement qu'il n'a obéi à aucune pensée obscène ou sadique. Cet acte est de même nature que les autres et ne relève que de la colère. Lorsqu'il eut déposé le couteau et son manche brisé dans le cellier, il monta à sa chambre et s'assit. Peu à peu, il reprit son sang-froid et comprit la gravité de ce qu'il venait de faire. Alors il en eut regret. « J'ai eu des remords, dit-il, et j'ai voulu me suicider. » Il y avait une heure environ qu'il était dans sa chambre quand il en descendit pour aller se noyer dans un étang à 50 mètres de la maison. Il entra dans l'eau, fit quelques pas, mais le courage lui manqua, et il revint dans sa chambre. Il y resta jusqu'au petit jour. C'est alors qu'il se rendit chez ses parents, où on l'arrêta. La tentative de suicide paraît plausible. Elle est en harmonie avec les remords éprouvés par l'inculpé. Elle semble établie par ce fait qu'on a trouvé dans sa chambre un pantalon mouillé. Pour tout dire, sa version nous paraît sincère. Tout s'y tient d'une façon logique, et il ne cherche pas à atténuer sa culpabilité. Elle nous paraît, en outre, établir nettement qu'il a eu pleine conscience des faits accomplis et de sa responsabilité. S'il a éprouvé des remords, c'est qu'il sait discerner le bien du mal. Et il le sait d'autant mieux qu'il est d'une intelligence non seulement normale pour son âge, mais même, d'après l'instituteur qui l'a élevé, au-dessus de la moyenne. Il ne peut donc y avoir doute sur la question de discernement au sens légal du mot. L'exposé qui précède démontre que Redureau ne présente aucun trouble mental actuel. Il tente aussi à établir qu'au moment où il a commis les meurtres qui lui sont reprochés, il n'était pas sous l'influence d'un état mental pathologique. Toutefois, ce point demande à être examiné de plus près. Le nombre des victimes, la manière dont le meurtrier s'est acharné sur elle, la fureur qui a guidé son bras, évoquent, a priori, l'idée de quelque délire transitoire subi, comme on en observe quelquefois dans les états épileptiques larvés, et exceptionnellement dans certains états d'intoxication. Mais c'est une hypothèse à laquelle nous ne pouvons nous arrêter pour les raisons suivantes. Redureau n'a jamais manifesté le moindre symptôme pouvant se rattacher à l'épilepsie. Il n'était sous l'influence d'aucune intoxication, d'aucun trouble délirant, jouissait de toute son intelligence et a conservé la pleine conscience de tous ses actes pendant la fatale soirée. Or, l'amnésie est le symptôme pathognomonique de ces délires transitoires, et un individu ayant agi dans un état de trouble mental épileptique ou épileptoïde n'eût pas gardé le souvenir des faits accomplis, ou n'en eût gardé tout au plus que quelques vagues et confuses parties. La déposition du témoin CH, d'après laquelle l'inculpé aurait, 2 mois et demi avant le crime, exprimer l'idée que ses patrons étaient bons à tuer, soulève au point de vue psychiatrique une nouvelle hypothèse. Redureau n'était-il pas hanté depuis longtemps par l'idée obsédante de tuer son patron? N'aurait-il pas succombé à une impulsion irrésistible au meurtre, comme il en existe quelques cas dans la science? Mais, d'une part, Redureau nie le propos. D'autre part, nous avons vu qu'il n'avait jamais été hanté par une idée fixe de nature quelconque. Et quelles qu'aient été nos investigations sur ce point, ses réponses ont toujours été négatives. D'ailleurs, dans la bouche d'un obsédé, le propos attribué à Redureau serait invraisemblable. L'individu que tourmente l'impulsion au meurtre souffre moralement de cette obsession. S'il récrimine, ce n'est pas contre sa future victime, mais contre lui-même. Il s'accuse, il ne condamne pas. Redureau n'a donc pas succombé à une idée fixe, ni obéi à une impulsion consciente irrésistible. nous avons recherché dans quelles conditions physiques se trouvait l'inculpé au moment du crime. N'était-il pas surmené, fatigué, en état de moindre résistance organique et nerveuse? Le travail des vendanges est assez rude, et nous savons, par une enquête faite sur notre demande, qu'il commençait chez Mabi à 5h du matin, pour ne finir qu'à 10h du soir, sans autre repos que les moments consacrés au repas. Mais il résulte aussi de cette enquête que les vendanges ont été faites en plusieurs périodes séparées par des intervalles de repos. Elles ont eu lieu aux dates suivantes, 17, 18, 19 septembre, interrompues les 20, 21 et 22, pour être reprises du 23 au 27. Le dimanche 28, il y eut repos. Le 29, elles n'ont duré qu'une partie de la journée, et le 30, jour du crime, toute la journée. Il en résulte que ce travail, bien que pénible pour un adolescent de 15 ans, a été interrompu à plusieurs reprises et ne s'est pas poursuivi dans les conditions qui eussent pu produire du surmenage physique et un véritable épuisement nerveux. Au cours de cette expertise, Monsieur le juge d'instruction a reçu et nous a communiqué une lettre anonyme appelant son attention sur l'action troublante qu'exerce la vapeur du vin dans les pressoirs, où on le fait et où on le cuve, sur le cerveau des hommes occupés à ce travail. Bien que nous n'ayons, médicalement, aucune raison de penser que cette cause ait pu intervenir dans le crime de Reduro, nous avons procédé à une enquête auprès des personnalités médicales compétentes, mais nous n'avons reçu que des réponses négatives. Aucun des médecins consultés n'a observé d'excitation cérébrale pouvant être attribuée au dégagement des vapeurs du vin. Cela s'explique si l'on remarque que ce sont beaucoup plus des gaz stupéfiants que des vapeurs excitantes que dégage le moût en fermentation. Les gaz carboniques y prédominent et leurs propriétés sont de déterminer l'asphyxie, non l'ivresse furieuse. D'ailleurs, en ce qui concerne Reduro, il est établi que, depuis le commencement des vendanges, il passait la plus grande partie des journées au grand air, dans les vignes, que le travail du pressoir ne l'occupait que quelques heures par jour, et que le soir du crime, il n'avait pas séjourné plus d'une heure et demie dans le cellier. Il est lui-même très affirmatif sur ce point, qu'il n'était ni troublé, ni excité, ni ivre quand il a frappé son patron. En définitive, ce n'est pas dans la psychopathologie, mais bien dans la psychologie normale de l'adolescent, qu'il faut chercher le véritable déterminisme des actes commis par l'inculpé. C'est une notion classique que l'époque du développement de la puberté se signale par de profondes modifications, non seulement des fonctions organiques, mais encore des fonctions psychiques, sensibilité, intelligence et activité volontaire. En même temps que la résistance physique diminue et que le corps présente moins d'immunité contre les influences morbifiques, il se produit une sorte de rupture momentanée de l'équilibre mental, avec développement excessif du sentiment de la personnalité, susceptibilité exagérée, hyperesthésie psychique. On voit se manifester une véritable tendance à la combativité et une exagération remarquable de l'impulsivité et des tendances à la violence. L'adolescent est très sensible aux louanges et par contre ressent beaucoup plus vivement les blessures d'amour-propre. Les impressions qui arrivent à son cerveau se transforment plus irrésistiblement en incitations motrices, c'est-à-dire en actes impulsifs. Les spécialistes qui se sont occupés de la psychologie de la puberté ne manque pas de remarquer que c'est vers la 15e année que, dans les établissements d'éducation, on rencontre le plus grand nombre de sujets passibles de punition pour mauvaise conduite, altercations et voies de fait, parce que chez les jeunes gens arrivés à cet âge, les premiers mouvements ne trouvent que peu de freins, et que l'irréflexion est la principale caractéristique de leur état mental. C'est dans cet ordre d'idées que la science trouve aujourd'hui la principale cause prédisposante de la criminalité contre les personnes chez les adolescents à l'époque de la puberté. Ce qui précède permet de comprendre à quel degré de violence peuvent en arriver certains mouvements passionnels de l'adolescent, et combien il faut se garder d'appliquer à leur interprétation un critérium tiré de la mentalité de l'homme adulte. Normalement, donc, certains actes difficilement explicables, comme ceux qui sont reprochés à l'inculpé, peuvent être la conséquence d'un état mental qui ne relève en rien de la pathologie, qui, en un mot, est physiologique. Ajoutons que Reduro, sans être un taré au point de vue psychique, est incontestablement possesseur d'un tempérament nerveux, et qu'il semble établi, par de nombreux témoignages, qu'il est d'un caractère particulier qualifié de sournois, et qui pourrait sans doute tout aussi bien se traduire par la qualification de susceptible et vindicatif, circonstances qui ont certainement favorisé chez lui l'explosion de l'impulsivité et de la violence. En conséquence, nous répondons ainsi qu'il suit aux questions qui nous sont posées. Premièrement, Reduro Marcel n'était pas en état de démence, au sens de l'article 64 du Code pénal, lorsqu'il a commis les actes qui lui sont reprochés. Deuxièmement, au moment du crime, il jouissait d'un discernement normal et d'une entière conscience de ses actes. Troisièmement, l'examen psychiatrique et biologique ne nous a révélé chez lui aucune anomalie mentale ou psychique. Les particularités constatées relativement à son tempérament et à son caractère restent dans les limites des variations individuelles psychologiques et ne nous paraissent pas de nature à modifier sa responsabilité. Nantes, le 17 janvier 1914. Chapitre 4. La tâche de l'avocat défenseur était rendue particulièrement difficile par ce rapport médical si remarquable, qui entraînait presque nécessairement, pour Reduro, le maximum de la peine. Le très beau plaidoyer de Maître Durand, dont je citerai plus loin des extraits, n'empêcha pas la condamnation de son client à 20 ans de détention. Il est assez déconcertant de penser que, dans l'état actuel de la jurisprudence, il eût été plus avantageux pour l'accusé de présenter le caractère de dégénérescence d'un être prédestiné au crime. Son irresponsabilité, reconnue dans ce cas par les médecins, eût permis au juré d'accorder le bénéfice des circonstances atténuantes, d'où, pour Reduro, une très sensible atténuation de la peine. Devant les questions précises auxquelles les jurés durent répondre oui ou non, ceux-ci furent contraints à l'affirmative, et je l'eusse été tout comme eux. Mais j'eusse pensé une fois de plus qu'une telle procédure et des lois qui se montrent moins sévères et par conséquent laissent plus de liberté à un prédestiné qui ne peut pas ne pas tuer qu'à celui qu'une démentia brevis aveugle accidentellement, protège mal la société et satisfont bien imparfaitement notre besoin de justice. Je m'arrête, car sur cette question, il y aurait trop à dire. Mais l'on me saura gré de reproduire ici ces considérations que je relève dans le plaidoyer de Maître Durand, l'avocat de la Défense, et les quelques citations de juristes éminents dont il fait usage au cours de son discours. Ces réflexions si justes ont malheureusement pu paraître arguties subtiles aux esprits trop souvent incultes du plus grand nombre des jurés. Le choix de ceux-ci, on le sait, est livré au hasard, et que le bon sens soit la chose du monde la mieux partagée, comme le prétendait Descartes, les délibérations d'un jury, hélas, ne le prouvent guère. Rien de mieux propre à nous faire comprendre la défectuosité d'une procédure dont déjà je dénonçais l'absurdité dans mes souvenirs de cour d'assises. Absurdité relevée maintes fois depuis. Que les quelques lignes qui suivent. On y verra que le juré, pour satisfaire son sentiment de la justice, n'a d'autre ressource que de dire non, en dépit de toute évidence. Ce qui le force souvent à dire oui, en dépit de toute justice. Mais constatons d'abord l'effort de l'avocat défenseur pour élargir ce nœud coulant du rapport médical. Les particularités constatées relativement à son tempérament et à son caractère restent dans les limites des variations individuelles psychologiques et ne nous paraissent pas de nature à modifier sa responsabilité. Maître Durand répond : J'accepte la première partie de l'avis ainsi exprimé par les experts. L'examen psychiatrique et biologique ne nous a révélé aucune anomalie mentale ou psychique. Mais je conteste la conséquence qu'ils en tirent. Elle est en contradiction avec la thèse qu'ils ont développée sur la psychologie de la puberté. Si je rapproche cette thèse des principes généraux du droit pénal, je suis amené nécessairement à conclure que Redureau ne peut être considéré comme pleinement responsable de ses actes. Maître Durand dit plus loin. La valeur morale d'un acte est subordonnée au degré de liberté de celui qui l'a accompli. Et il cite ces phrases du doyen Villet. La liberté, voilà la condition et la justification de la responsabilité de l'homme. Et nous n'entendons pas par là une possibilité physique d'agir dans tel sens ou dans tel autre. Les animaux ont cette liberté-là, et on ne songe pas à leur demander compte de leurs actions. Nous entendons une liberté intelligente et raisonnée, en sorte que deux conditions forment la base de l'imputabilité pénale. L'intelligence, dans le sens de raison morale qui donne la notion du bien et du mal, la volonté libre ou liberté qui permet de choisir entre le bien et le mal. Sans liberté, pas de responsabilité, dit de son côté le professeur Saleil. Précisant ce qu'il faut entendre par liberté, il dit « La liberté, c'est un état, l'état de l'homme en pleine maîtrise de lui-même. L'homme n'est pas responsable lorsqu'il est en état de démence. Il lui manque alors et l'intelligence et la liberté. Il n'y a dès lors ni crime ni délit, dit l'article 64 du Code pénal. Le Code de 1810 n'admettait pas qu'il pût y avoir irresponsabilité en dehors des cas de maladie mentale, en dehors de ce que les médecins appellent des états pathologiques. Mais la science pénale a progressé, et notre Code lui-même s'est transformé. Il est sorti de cette conception étroite. Ce sont, messieurs, vos devanciers. C'est le jury français qui, par ses verdicts, força le pouvoir législatif à tempérer les rigueurs du Code. Le Code pénal de 1810, en dehors de la démence, n'admettait aucune atténuation à la responsabilité. Il ne connaissait pas les circonstances atténuantes. Or, souvent, le jury avait en face de lui un homme qui se défendait en mettant à nu toutes les circonstances de sa vie, tous les entraînements qu'il avait subis, tous les affolements qui avaient pu l'aveugler. Le jury voyait bien qu'en dehors même de la folie, il pouvait y avoir des degrés dans la liberté. Faute de pouvoir doser en quelque sorte la responsabilité, il acquittait purement et simplement. C'est alors que par deux fois successives, en 1824 et 1832, le législateur, cédant aux tendances du jury, introduisit les circonstances atténuantes. La preuve judiciaire, dit Saleil, à qui je viens d'emprunter presque mot pour mot le développement qui précède, la preuve judiciaire doit porter désormais non plus seulement sur des états de diagnostic pathologique, ce qui est une question relativement simple et de pure constatation médicale. Mais elle portera sur une question de psychologie morale. La question de savoir si l'acte, concret, a été un acte fait en état de liberté morale. Et plus loin, désireux d'éclairer les jurés sur les conséquences qu'entraîneront pour l'accusé leur réponse, Maître Durand leur dit ceci, qui motivait mes réflexions ci-dessus. Indépendamment de la question spéciale de discernement, à laquelle j'arriverai tout à l'heure, vous allez être saisis, messieurs, au sujet de chacune des 7 victimes de 2 questions, une question principale et une question accessoire. Redureau a-t-il volontairement donné la mort? Vous y répondrez affirmativement. La question accessoire portera sur les circonstances aggravantes. Elle ne sera pas la même dans le cas de Mabi et dans le cas des 6 autres. La circonstance aggravante relevée dans le cas du père est celle-ci. L'homicide a-t-il précédé, accompagné ou suivi les autres crimes? Je vous demande, messieurs, de répondre négativement à cette question, et voici pourquoi. Il est exact que matériellement, le meurtre de Mabi a accompagné, précédé le meurtre des 6 autres victimes. Mais cette circonstance purement matérielle est insuffisante pour constituer l'aggravation prévue par la loi. La circonstance que le législateur a voulu atteindre, c'est la simultanéité morale, le fait qu'un crime a été perpétré dans le but de faciliter l'accomplissement d'un autre crime. Pour que la circonstance aggravante existe, il faut que les 2 crimes aient été conçus dans un même projet. C'est ce que notre illustre compatriote Faustin Elie enseigne dans sa théorie du code pénal. En général, dit-il, les 2 crimes ne doivent être considérés comme simultanés que lorsqu'ils sont l'exécution d'un même projet, la suite d'une même action, et qu'ils sont commis dans le même temps et dans le même lieu. Or, il est bien certain qu'au moment où il a frappé Mabi, Redureau ne songeait pas à faire d'autres victimes. Vous répondrez donc négativement à cette question accessoire. C'est ce que n'ont point fait les jurés. Chapitre 5. En manière de conclusion, citons enfin cet appendice du rapport médical. Après 2 audiences qui n'apportèrent au procès aucune lumière nouvelle, le jury ayant rendu un verdict affirmatif sur toutes les questions, Redureau fut condamné par la cour au maximum de la peine que comportait son âge, c'est-à-dire 20 ans de détention. Pendant les débats, affaissé sur son banc, la tête basse, la figure pleurarde, son attitude fut celle d'un enfant fautif qui s'attend à une correction d'importance. Seule la déposition du témoin CH, qui tendait à établir la préméditation, provoqua de sa part de nouvelles et formelles dénégations. Il pleura quand son oncle se présenta à la barre pour faire sa déposition. Il versa aussi quelques larmes pendant le réquisitoire et pendant la plaidoirie de son avocat. Il n'eut rien, en définitive, du précoce héros de cour d'assises. Pendant les mois de prévention que Redureau a passé à l'infirmerie de la maison d'arrêt de Nantes, il n'a donné lieu à aucune remarque digne d'être notée. Le gardien-chef de la prison a fait une déposition que le journal Le Phare reproduit ainsi. Le témoin a remarqué que Redureau est dissimulé, sournois, se tenant sur ses gardes et ne répondant que par monosyllabes. Il dort bien, mange bien, n'a pas l'air effrayé de son affaire. Il ne peut dire si l'accusé a regretté son acte, mais il a su que Redureau avait pleuré une fois après avoir vu son avocat. Redureau n'a pas pleuré qu'une fois. Il a pleuré quand il recevait la visite de sa mère. Il a pleuré bien des fois devant nous, quand nous évoquions le souvenir de ses victimes. Le lendemain de sa condamnation, il pleura longtemps, à chaud de larmes, à la façon d'un enfant. Et, ses larmes séchées, on le vit peu à peu revenir à la mobilité de sentiments et à l'insouciance de l'enfant que tout amuse, qu'un rien fait rire, et qui subit tout entier des influences du monde extérieur. Seul, le souvenir de sa famille le ramenait pour un moment à la réalité et lui tirait des larmes. Et à ce propos, grâce à l'obligeance de Maître Abel Durand, l'avocat distingué qui se chargea de sa défense, nous pouvons donner ici copie d'une lettre qu'il écrivit à ses parents au lendemain de son procès, lettre qui nous paraît des plus caractéristiques. « Chers parents, Je vous écris pour vous dire que le grand jour est passé, mais malheureusement sans bon résultat. Et comme vous devez l'avoir déjà appris, je suis condamné à 20 longues années d'emprisonnement dans une colonie pénitentiaire. Et comme vous le voyez, chers parents, la mort viendra nous prendre avant de nous revoir. C'est pour cela qu'il faut que vous veniez chercher mes essais, car ils seraient perdus. Et quand vous viendrez, venez le samedi et le mardi, parce que les autres jours, c'est défendu de voir les condamnés, autrement que le mardi et le samedi. Vous ne manquerez de me donner votre adresse quand vous aurez quitté le pays où nous étions si bien, avant ce mauvais jour du 30 septembre, où j'ai commis cet horrible forfait qui me tient à jamais éloigné d'un si bon père et d'une si bonne mère et de si bons frères et sœurs que je ne reverrai plus jamais. Et mon pauvre grand-père, qui m'aimait tant, je ne le reverrai jamais. Et Clémentine et Berthe, que j'aimais tant. Et Jean, qui est à Alger, lui qui m'était si bon. Quelle honte pour vous tous, qui n'en êtes pour rien. Vous me direz si Marie est toujours à T, parce que ses compagnes doivent lui parler de moi, si elle y est encore, et elles ne doivent plus la regarder, et n'en est pourtant pas la cause. Je viens d'apprendre par mon avocat que papa est bien malade d'avoir à quitter le pays. J'espère qu'il va bientôt être guéri pour fuir ce pays de malheur qui était si beau avant ce crime d'un si jeune misérable que je suis. Je ne pense pas que je vais rester longtemps à Nantes. Quand je serai dans un autre endroit, je vous donnerai l'adresse afin que je puisse recevoir de vos nouvelles, car cela me serait trop dur de ne pas en recevoir. Vous me rendrez réponse en me disant des nouvelles de mon cher père qui pleure son enfant, qui est condamné à ne jamais le revoir. Je pense qu'il sera vite guéri et qu'il prenne courage, et vous me direz des nouvelles de grand-père qui doit être vieilli. Votre fils qui songe à ce qu'il a commis et qui pleure en pensant à un si horrible crime qui vous a mis dans la douleur et la honte pour le restant de votre vie, ainsi que celle de mes bons frères et sœurs, qui pleureront toujours un si grand crime fait par leur jeune frère, prisonnier pour toujours. Votre fils qui embrasse en pleurant ses bons parents, qui sont à jamais et pour toujours éloignés de lui. Marcel Reduro. Par son mélange de préoccupations naïves et de regrets d'accent sincère, cette lettre constitue un document psychologique qui nous semble confirmer entièrement notre manière d'apprécier la mentalité de son auteur et qui nous dispense de plus amples commentaires. Après la condamnation, m'écrit M. Gaëtan Rondeau, mon très aimable correspondant, les relations de Marcel Reduro avec son avocat ne cessèrent pas. Celui-ci demeurait angoissé par le mystère psychologique, dont une étude approfondie du dossier ne lui avait sans doute pas livré la clé. Après le verdict, Marcel Reduro témoigna jusqu'à sa mort de sentiments édifiants, et son défenseur ne put se garder à son égard, jusqu'à la fin, d'une sympathie un peu analogue à celle que Mauriac éprouve pour ses héros criminels. Marcel Reduro mourut tuberculeux à la colonie correctionnelle de X vers février 1916. Quelques semaines auparavant, son avocat défenseur avait reçu de lui une touchante lettre d'adieu. Sa conduite à la colonie n'avait cessé de donner satisfaction.